Ce message a été enregistré en public au Centre évangélique de Saint-Nazaire. Prédicateur, pasteur Alain Ouvrard, toute l'équipe vous souhaite une bonne écoute.
Avec moi. Je vais commencer par une lecture très courte, mais qui va nous conduire à faire un petit parcours dans l'Écriture sainte sur un sujet particulier. Je vous propose, pour introduire donc cette pensée, le livre de l'Ecclésiaste, et dans ce livre, nous allons prendre au chapitre 7 et au verset 16, bien deux simples petites phrases. Voilà, donc, livre de l'Ecclésiaste, chapitre 7, verset 16. Ne sois pas juste à l'excès et ne te montre pas trop sage. Pourquoi te détruirais-tu? Ne sois pas méchant à l'excès. Ne sois pas insensé. Pourquoi mourrais-tu avant ton temps? Alors j'aimerais attirer votre attention sur tout simplement deux expressions qui sont importantes et qui vont signifier en quelque sorte bien notre propos. La première chose, c'est une question: pourquoi te détruirais-tu? Pourquoi finalement la vie que Dieu t'a donnée disparaîtrait-elle en raison de ce qui est expliqué finalement précédemment, mais ce n'est pas tellement cela qui va nous intéresser, mais c'est surtout cette autodestruction qui est soulignée dans cette première proposition. Pourquoi te détruirais-tu? Et puis, pourquoi mourrais-tu avant ton temps? Vous savez que dans ce même livre de l'Ecclésiaste, il est dit que Dieu a fait un temps pour toute chose, un temps pour naître, un temps pour mourir. On le sait, cela. Et que nous sommes renfermés entre un commencement et puis, une terminaison, si je peux m'exprimer ainsi, de la vie, et qui fait que c'est quelque chose de sacré que la vie. C'est quelque chose de très important. Et pourquoi je vous propose ces paroles? C'est parce que nous vivons dans une société, mais ça a toujours existé, hein, c'est un phénomène qui a traversé les temps et les civilisations. C'est la question du suicide. La question du suicide est quelque chose qui est préoccupant dans notre monde, non seulement dans nos pays occidentaux, mais on s'aperçoit que ça va bien au-delà d'ailleurs. Et peut-être particulièrement un phénomène catastrophique, dramatique dans nos pays nantis, nos pays où on peut dire que nous avons une qualité de vie. Et c'est vrai que c'est important de pouvoir apporter ce sujet parce que cela génère des drames incommensurables. D'abord, la destruction de la personne, et puis de mourir avant notre temps, parce que, vous savez, comme le dit encore ce fameux livre de l'Ecclésiaste, c'est Dieu qui coupe le cordon d'argent. Et il ne nous appartient pas, finalement, de faire ce qui nous est interdit de faire, parce que dans les 10 commandements, vous connaissez cette parole, il est dit « tu ne tueras point, mais tu ne te tueras point non plus ». Et c'est plutôt un sujet qui mérite d'être abordé parce que c'est un fait de société. Et je crois qu'il y a des éléments qui nous parlent à travers l'Écriture sainte. Et j'aimerais justement voir un petit peu avec vous la nature de ce phénomène, en quelque sorte. Je ne vais pas rentrer dans les détails, mais selon les statistiques, il y a à peu près 10 500 suicides aboutis. Alors, je ne vous dis pas les tentatives, hein, parce que là, je crois que ça se multiplie par beaucoup, beaucoup plus. Et puis, sur 50 décès, je livre les statistiques, il y a un décès parmi 50 décès naturels, un décès qui a pour cause, qui a pour raison le suicide. Nous apprenons également qu'il y a 27 suicides par jour dans notre pays. C'est quelque chose, quand même, d'assez d'assez important. Et puis, sans aller dans le fond du suicide, eh bien, le suicide est considéré comme tout simplement l'unique voie possible pour des gens désespérés, eh bien, pour échapper à une situation qui devient insoutenable et insupportable. On ne se donne pas la mort, on ne se détruit pas pour peu de raisons. C'est parce que il y a eu naturellement, eh bien, en effet, par-delà l'acte final, par-delà eh bien, le geste fatal, il y a là eh bien, tout un temps qui a, on pourrait dire, incubé dans l'esprit, dans la pensée, et qui à un moment donné, eh bien, les choses étant tellement difficiles à vivre, insupportables, insoutenables, qu'on en arrive eh bien, tout simplement à mettre fin à ses jours. Pourquoi mourrais-tu avant le temps? Parce que le temps, il appartient à Dieu. Parce que le temps, eh bien, c'est Dieu qui nous a donné ce souffle. Et c'est lui qui a compté, comme le dit l'Écriture sainte, qui a compté nos jours, qui détient notre souffle. Et je pense que c'est un sujet que la Bible traite, hein, parce que, je vous l'ai dit tout à l'heure, ce sont des choses qui ont toujours existé à travers tous les temps et dans toutes les périodes, finalement, de la vie des hommes sur la terre. Alors donc, on sait que par aussi ces mêmes statistiques, c'est qu'il y a des jeunes qui se suicident de désespérance. Il y a également un créneau d'hommes, de femmes, qui passent à l'acte dans le milieu de la vie. Mais le record est battu, si je peux me permettre, triste record est battu par les personnes âgées, qui ne veulent pas finir, finalement, comme... Eh bien, dans la déchéance ou tout simplement eh bien, dans la dépendance de la société ou la dépendance de leur famille. C'est quelque chose de terrible. Et aujourd'hui, il y a de grandes discussions au niveau des pouvoirs publics pour savoir comment on peut enrayer ce phénomène qui est un véritable drame. Un drame parce que pour les familles, pour ceux qui restent, on n'y a pas d'explication. Même si on sait la fragilité peut-être de la personne qui intente à ses jours, c'est une chose qu'on ne peut pas expliquer. C'est une chose qui reste et qui restera. Une mort naturelle, c'est autre chose. Une mort de maladie, une mort d'accident, c'est autre chose. Mais ça reste quelque chose de dramatique. Alors moi j'aimerais justement, en ouvrant notre Bible, voir quelques aspects bibliques. Quelques aspects bibliques, parce que nous avons, nous, une façon de penser... Parce que nous avons cette conception du salut, du pardon de Dieu, nous savons où nous allons, nous savons que, eh bien là, la vie, c'est Dieu qui en est le créateur, nous en sommes les dépositaires, que nous avons à entretenir cette vie, et non pas à la supprimer. Alors nous avons des raisons, naturellement. Mais les faits que je vais placer devant vous, ce sont tous des histoires de croyants qui ont connu à un moment ou à un autre... le vertige du suicide, d'être pris dans leur pensée et de dire, eh bien, tout simplement, je veux mourir. Bien que ce soit des hommes, et vous allez voir, pas des moindres, qui ont connu cela. Alors, je pense que ça peut être intéressant de prendre les choses en considération. Il y a une chanson qui a été écrite il y a une vingtaine d'années, où je ne dis pas le nom de la jeune femme qui chantait, « Ne t'en va pas comme ça ». Ne t'en va pas comme ça. Alors c'était naturellement eh bien, une chanson qui parlait de la séparation d'un couple. Papa, ne t'en va pas comme ça. Mais moi je voudrais le mettre sous l'aspect du suicide. Ne t'en va pas comme ça. Parce qu'il y a une autre façon. Parce qu'il y a des solutions. Parce qu'il y a une espérance. Parce que la foi, elle nous sauve. Parce que la foi, elle est capable de nous redonner le souffle de la vie, la joie que nous avons perdue, l'espérance peut-être qui était brouillée. Qui a été gommé. Alors nous allons le voir. Dans le livre des Actes, si vous voulez, vous allez suivre avec moi, nous allons faire une petite recherche. Dans le livre des Actes, figurez-vous qu'il y a une histoire qui nous est rapportée au chapitre 16. Et il est question d'un homme qui avait une position de geôlier dans la prison de Philippe. Vous connaissez naturellement, hein. Et voilà que cet homme... Il n'y avait certainement pas passé, ce n'était pas prémédité, mais en un instant, il y a eu véritablement eh bien, cette pensée qui s'est imposée qu'on ne pouvait plus vivre. C'était plus possible de vivre. Alors je vais lire à travers le verset 26 et 27, je vais voir un petit peu ce qui s'est passé, on va le voir ensemble. Il nous est dit que, donc gardien de prison, surveillant en chef probablement, il nous est dit que tout à coup il se fit un grand tremblement de terre, en sorte que les fondements de la prison furent ébranlés. Au même instant, toutes les portes s'ouvrirent et les liens de tous les prisonniers furent rompus. Le geôlier, l'homme en question, se réveilla, et lorsqu'il vit les portes de la prison ouvertes, il tira son épée et allait se tuer, pensant que les prisonniers s'étaient enfuis. Voilà un homme qui faisait bien son travail, hein, jusqu'à finalement aller jusqu'à l'extrême, eh bien, donner sa vie, mais quoi qu'il en soit, si. Il s'était avéré que les prisonniers s'étaient enfuis au moment de son service et sous sa surveillance. Je pense que dans l'Empire romain, on ne faisait pas de cadeaux. Hein. Lui-même serait passé, certainement, il aurait été exécuté. Mais bon, toujours est-il que je relève cette parole. Il nous est dit qu'il tira son épée et allait se tuer. Premier réflexe qu'il a devant, eh bien là, ce qui se produit autour de lui. Un homme qui voulait mourir de désespoir au milieu des ruines. Alors, ce sont des ruines matérielles. C'est les murs de la prison qui s'écroulent, c'est le toit qui s'effondre, ce sont les portes qui s'ouvrent, ce sont les chaînes qui tombent. Ce sont des ruines, en quelque sorte. Mais si nous voulons transposer cette image qui fait force, en quelque sorte, nous pouvons nous apercevoir que le suicide, quelque part, eh bien là, est inspiré justement par les ruines d'une vie, les échecs, les déboires, les faillites, que ce soit sur le plan économique, sur le plan sentimental, sur le plan professionnel et dans bien d'autres choses que je ne peux pas vous citer parce que je ne les ai pas tous en mémoire, mais désespoir au milieu des ruines. Vous savez, on ne se suicide pas de bonheur. Hein. Je crois que ça ne peut pas exister. Le verset 26, en prolongeant, donc, nous parle de cet homme. Et il nous parle des conditions, il nous parle de ces circonstances qui, eh bien là, va faire en sorte qu'il va se trouver prêt au dépourvu en disant « Mais qu'est-ce que je peux faire ?» Parce que, précisément, la raison de ce pourquoi je suis là, c'est de garder cette prison et de garder les prisonniers par, naturellement, eh bien, le même fait. On pourrait parler de l'effondrement de sa vie, puisque on l'a vu tout autour de lui. Et à ce moment-là, figurez-vous qu'il y a une voix qui retentit. Une voix qui va retentir et qui va lui dire « Ne te fais pas de mal ». Vous savez, nous pouvons tous passer par des moments où nous avons un petit peu de vague à l'âme. C'est peu, hein. Que nous avons des moments de blues, que nous passons par des grandes questions existentielles. Et il peut arriver que nous ayons envie d'en finir, de dire « Mais je ne peux pas vivre comme ça. » Parce que finalement, eh bien, qu'est-ce que vaut ma vie ? Qu'est-ce que j'ai fait hier? Qu'est-ce que je vais faire demain? Et qu'est-ce qu'elle représente pour moi aujourd'hui? C'est une catastrophe. On peut toujours se dire les choses. Et dans cette parole qui va retentir, qui va, eh bien là, probablement, dans tout ce tohu-bohu de ce qui se passe dans la prison à ce moment-là, c'est un tremblement de terre naturel, naturellement, eh bien nous nous apercevons qu'une voix se va se faire entendre. Ne te fais pas de mal. Cette voix, elle est audible. Il l'entend, il la comprend naturellement. Mais il y a des voix aussi qui peuvent parler. Oui, il y a des voix qui peuvent parler dans le silence. Et de dire, et de nous dire, une voix qui vient du ciel. Parce qu'il y a deux voix contradictoires. Il y a la voix de Dieu qui nous dit « Ne te fais pas de mal. Pourquoi mourrais-tu avant le temps? Avant ton temps. » Et puis il y a la voix de l'adversaire qui lui dit, ou qui dit « Tu peux y aller. Tu seras soulagé. C'est fini pour toi. Alors vas-y. Sois courageux. Ne te fais pas de mal. » Ou tout simplement, ne t'en va pas comme ça. Ouais. Ne pars pas comme ça. Il y a autre chose. Donne-toi encore un peu de temps. Réfléchis. Pense peut-être à ceux qui sont autour de toi. Mais ne t'en va surtout pas comme ça. Parce que ta vie n'est pas finie. Plutôt, elle recommence autrement. Et dans ce recommencement, nous avons eh bien, la conclusion. Alors le geôlier ayant demandé de la lumière... Vous savez, la lumière, elle vient toujours d'en haut. Hein. Elle vient toujours d'en haut. Et la lumière, c'est la parole de Dieu. C'est celle qui nous parle. C'est celle qui nous dit « Ne te fais pas de mal ». Alors, Il entra précipitamment et se jeta tout tremblant aux pieds de Paul et de Silas, et il nous est simplement précisé un peu plus loin, devant la question que cet homme va poser, mais que faut-il faire pour être sauvé? Que faut-il faire pour être délivré de ces pensées de mort? Que faut-il faire pour, eh bien, surmonter la ruine de ma vie et continuer? Et Paul va lui répondre, mais là, pour son salut, pour sa délivrance et son salut avant tout. Alors il dira, mais crois au Seigneur Jésus et tu seras sauvé, toi et ta famille. Et vous savez comment ça s'est terminé? C'est que lui-même, avec toute sa famille, il a été baptisé au nom de Jésus-Christ. Ouais. Vous savez, le diable veut nous précipiter, l'adversaire veut nous précipiter avant que Dieu intervienne et nous dise, mais j'ai quelque chose d'autre pour toi. Et c'est toujours le moment ultime, c'est toujours la frontière fatidique qu'il peut y avoir entre le passage à l'acte et puis tout simplement de se garder à un moment donné, parce qu'il y a toujours quelque chose d'autre. Parce que la mort n'apporte pas la solution. Enfin, dans ce cas, en tous les cas. Dans ce cas, ce n'est pas la solution. Alors il est rentré dans la maison du geôlier, et puis ils ont partagé un repas, et il aura parlé certainement longtemps de Jésus qui sauve les désespérés. Oui, parce que c'était son cas, il n'allait pas lui parler d'autre chose. Il n'allait pas faire un état de l'histoire d'Israël, Moïse, et puis tout le reste. Non, je pense qu'il est resté sur l'événement, sur cette ruine, sur cette crainte, cet effroi que cet homme a connu en disant « mais il n'y a plus d'espoir, puisque je vous l'ai dit ». C'est une façon désespérée de se sauver et de ne plus d'échapper à une situation qui devient impossible, qui devient insurmontable. Alors ils ont été baptisés, lui et les siens. Et ça c'est quelque chose d'extraordinaire, parce qu'il y a toujours une autre vie autrement. Et il y a certainement pas mal de croyants et de chrétiens qui, jusqu'au moment fatidique, eh bien, ont entendu cette voix, ont reçu cette lumière et se sont retenus ou se sont retirés d'aller plus loin. Ça, c'est une espérance. Moi, je connais quelqu'un que je connaissais très très bien, qui tout simplement voulait mourir. Et le matin même, elle avait reçu sur nos petits éphémérides, vous savez, les petits calendriers, un texte tout simple où il était question du suicide. Et cette personne me l'a confessé plus tard en disant « Mais j'ai lu ce petit texte biblique. » Et à ce moment-là, eh bien, alors que je voulais mourir, que j'allais peut-être me donner la mort, eh bien, ça m'a retenu. Ça, c'est la lumière et la voix de Dieu qui nous diminue notre vie. C'est extraordinaire. Et ça, c'est le miracle de Dieu. Eh oui, c'est une autre vie. Mourir plutôt que vivre. Ouais. C'est aussi l'histoire d'un autre homme de la Bible, qui est bien connu, qui a écrit un livre formidable, il s'appelle Jérémie. Jérémie, figurez-vous. Quelqu'un qui va connaître la tempête à l'intérieur de lui-même, et quelqu'un qui ne trouve pas, ou qui ne trouve plus sa place, tout simplement dans son temps et dans son monde. Ah, il y avait des bouleversements du temps de Jérémie. Hein. Tout avait été rasé à Jérusalem. C'était la guerre qui était passée, le sang et le feu. Et lui, il était resté avec un petit nombre d'Israélites, tous les autres étaient partis en déportation, un effondrement, quelque chose de catastrophique, quelque chose d'inimaginable, et qui malheureusement se retrouve encore aujourd'hui dans certains pays, au moment où je suis en train de vous parler. Hein. Jérémie, ah oui, il n'arrivait plus à connecter avec son temps et avec son monde. Et qu'est-ce qu'il nous dit en ce qui concerne Jérémie? Dans son livre, on va lire aussi un passage, il est tout simple, mais il parle... Et il parle bien d'ailleurs, Jérémie. Alors, dans le chapitre 20 et au verset 14, et au verset 18, jusqu'au verset 18, ou d'une manière ou d'une autre. Alors, Jérémie 20, on va le prendre. Verset 14, il dit ceci sur sa vie. « Maudit soit le jour où je suis né. » Que le jour où ma mère m'a enfanté ne soit pas béni. Maudit soit l'homme qui porta cette nouvelle à mon père. Il t'est né un fils et qui le combla de joie. Et le verset 18, toujours une question de Jérémie sur le sens de son existence. Il dira, mais pourquoi suis-je sorti du sein maternel? Pourquoi voir la souffrance et la douleur? Et pour consumer mes jours dans la honte? Tout était réuni. En raison de ce que je viens de vous expliquer, des conditions de son temps, des conditions de son pays, des conditions pour lui-même en tant qu'israélite, où tout était dévasté. Jérémie pleure sur la ville de son Dieu, une ville qui est en cendres, qui était mise à feu et à sang. Et il a du mal à le supporter. Quand il a vu tant de gens mourir, ses amis, ses proches, quand il a vu aussi ses amis partir en déportation, quand reviendront-ils s'ils reviennent? Quand tout s'effondre, quand il n'y a plus rien finalement, quand tout est fermé. Et pourtant c'est un croyant, Jérémie, on ne peut pas dire autrement. Il est question ici de désespoir qui touche la brutalité. Je dis bien, pourquoi pas même peut-être y ajouter la bestialité de la société où, précisément, les plus faibles sont humiliés et écrasés. C'était bien le cas, cette situation. Que faire quand l'ennemi est bien au-delà dans sa force? Qu'est-ce que nous pouvons dire et qu'est-ce que nous pouvons faire? C'est une profonde humiliation. Et tous ceux qui vivent ça, parce qu'il y a des retours, il y a des défaites, il y a des capitulations quelquefois dans la vie. Elles sont collectives, mais elles peuvent être individuelles, quoi qu'il en soit. Alors, c'est un monde qui, pour Jérémie et pour bien d'autres hier et aujourd'hui, qui ne leur convient pas, parce que la souffrance, il le dit lui-même, parce que la douleur, parce que l'exclusion, parce que la perte de sens de l'existence, voire même la solitude, eh bien, l'injustice font loi et dominent tout et partout. Que reste-t-il? L'envie de mourir. Parce qu'on pense qu'il n'y a plus de perspective de relèvement, il n'y aura pas de nouveau printemps, il n'y aura pas finalement, eh bien, de lumière. Je crois qu'il y a des millions de gens qui le vivent aujourd'hui, hein, qui sont en train d'errer sur les routes. Il y a dans notre histoire propre, nous, en France, des moments où ça a été la capitulation. Et ça, c'est pas si vieux que ça. Mais ça peut être sur le plan d'une vie tout simplement individuelle. Eh bien, c'est cette tentation de fuir. Alors on peut courir de droite et de gauche et on voit le même spectacle. On voit les mêmes souffrances. On voit les mêmes, et on partage les mêmes angoisses. La tentation de fuir est la plus forte. Alors nous pouvons dire, et nous pouvons peut-être le répéter, oui, fuir, mais ne t'en va pas comme ça. Non, il y a autre chose. Il y a de l'espérance. Il y a encore de l'espoir. Ne t'en va pas comme ça. Parce que la solution au problème dont nous sommes en train de débattre n'est pas tant extérieure, même si nous voyons que toutes ces choses sont épouvantables de nos yeux, mais elle est aussi, elle est avant tout intérieure, intérieure à soi-même. Une nouvelle vie, une autre voix se fait entendre à ce moment-là. Et il faut aller recourir dans le livre d'Osée, par exemple, le prophète, qui nous dit ceci parce que c'est un passage que j'aime beaucoup, un passage qui est destiné à tous les désespérés du monde, d'hier et d'aujourd'hui. Et dans le livre d'Osée, c'est une parole de Dieu, une autre voix se fait entendre, où là nous n'avons plus d'espoir et que nous pensons que tout est fini. Écoutez, Osée, chapitre 2, verset 16. « C'est pourquoi voici, je veux l'attirer et la conduire, ou le conduire au désert. » Verset 16. Hein. « Et là, je parlerai à son cœur. » Parce que moi, je crois que devant et avant le geste fatal, Dieu parle. Ça, je crois. Ouais. Que Dieu parle. Et il est encore capable de parler si nous voulons l'entendre. Et si nous voulons faire taire la voix de l'adversaire. Parce que lui, il nous pousse. Vous savez, le suicide, ça ne peut être que de provenance de mauvais esprits. L'esprit de Dieu fait vivre, mais l'esprit de l'adversaire fait mourir. Ouais, il fait mourir. Alors, Dieu dit, je veux l'attirer, je veux la conduire au désert, et là je parlerai à son cœur. Je lui dirai des choses dont il a besoin de savoir, lui peut-être, ou elle, qui veut mettre fin à ses jours par des amours, et bien qu'elle est aimée, peut-être plus sur la terre, mais qu'elle est aimée dans le ciel, parce qu'elle a du prix, la vie de ceux qui l'aiment, n'est-ce pas? Ça, c'est une citation biblique. Hein. Là, je lui donnerai les villes de la vallée d'Accor, comme une porte d'espérance, et là, elle chantera comme au temps de sa jeunesse, comme au jour où elle remonta du pays d'Égypte. Parce que le pays d'Égypte, c'était la délivrance. La grande délivrance qui a marqué l'histoire de tout le peuple d'Israël à travers les siècles. Délivrance de Dieu. Libération de la servitude. De tous ces tourments qui nous détruisent à l'intérieur de nous-mêmes. Une porte. porte d'espérance, là où nous voyons que tout est fermé, que tout est barricadé, que tout est clos, que nous sommes dans une prison sans issue, eh bien je lui donnerai une porte d'espérance. C'est ça ce que ceux qui ont ces pensées morbides, eh bien ont besoin d'entendre, que Dieu donne une porte d'espérance. Tout n'est pas fini. Et tout peut commencer. Et elle chantera. Oui. Elle chantera comme au jour de sa jeunesse. Parce que la vie va revenir. Et tout ce qu'il y a de bon dans la vie, eh bien, va se présenter. Mourir plutôt que vivre. Mourir plutôt que vivre. Il y a un homme que nous connaissons bien. Et qui est un homme extraordinaire, un homme de foi. Un homme qui a fait des choses. Contrairement à Jérémie, qui lui a écrit... Lui, il a fait des miracles et des prodiges. Il s'appelle Élie. Alors, vous voyez où je veux en venir. Élie était un homme épuisé. Tiens, c'est curieux. On pensait que dans l'Antiquité, ils ne travaillaient pas beaucoup. Ils étaient là, bien tranquilles, sous leur sycomore et leur figuier, à garder leurs brebis. Non. Mais qu'est-ce que nous pourrions dire de notre société aujourd'hui, qui est génératrice de stress, d'écrasement, d'asservissement de l'homme par l'homme, d'esclavagisme? On pourrait peut-être penser ça. Un homme qui veut mourir, et nous avons finalement son histoire, si nous voulons y jeter un coup d'œil, eh bien dans le livre des Rois, au chapitre 19, et nous allons voir ce qui s'est passé pour notre brave Élie. Et vous en connaissez parce que vous connaissez un peu la substance de son aventure, puisque nous y sommes allés quelquefois pour y méditer. C'est un homme qui veut mourir. 19, verset 4. Écoutez bien, pour Élie, il alla dans le désert et après une journée de marche, il s'assit sous un genêt et demanda la mort. Il demanda la mort en disant, c'est assez, maintenant Éternel, prends mon âme, car je ne suis pas meilleur que mes pères. Il se coucha et s'endormit sous un genêt. Eh oui. Voilà un homme que nous voyons demander que Dieu envoie la pluie du ciel pour qu'elle tombe, et elle tombe. Un homme qui prie et Dieu obéit. C'est extraordinaire, hein? Enfin, tout ça, c'était enveloppé dans une grande volonté de Dieu, quoi qu'il en soit. Un homme qui monte sur le mont Carmel et qui là, eh bien, va demander à Dieu que le feu descende sur l'autel qu'il a construit. Et à ce moment-là, il va y avoir, eh bien, une clarification nette et précise entre les serviteurs de Dieu et les prophètes de Baal. Les idolâtres, les occultistes, ça va être clair et net. Et tout ça par la foi. Et là, il apprend que la reine Jézabel est à sa poursuite et il tremble. Il a peur pour sa vie. Il a peur de l'épée de Jézabel. Il craint de perdre sa vie et pourtant, il demande à mourir. Il y a quelque chose d'assez paradoxal que peut-être... Moi, je le comprends. Je le comprends, oui. Quelquefois, vous savez, ce n'est pas ceux qui demandent à mourir qui vont mourir. Et ceux qui ne demandent pas de mourir, quelquefois, ils y passent. Ça, c'est le paradoxe. Ça nous échappe. C'est bien pour nous montrer que notre souffle ne nous appartient pas. Alors, qu'est-ce qui se passe pour Élie? À l'origine de son découragement de vivre, c'est une terrible déception. Il se dit, moi, l'homme qui ai fait des choses extraordinaires, eh bien, je me retrouve dans une incapacité, je me retrouve dans la fuite, je me retrouve comme un petit garçon qui fuit après un châtiment, après une femme qui est cruelle et qui veut me détruire. Et là, il perd tous ses moyens spirituels. Il ne sait plus du tout où il en est rendu, le pauvre Élie. Parce qu'il a le sentiment d'avoir fait tout son possible pour plaire à Dieu, pour servir Dieu. Et là, il s'aperçoit que c'est sans retour ni réponse. Alors il se dit, comme quelquefois, le point final d'un homme qui est au bord de basculer dans le suicide, à quoi bon tout ça? À quoi bon vivre? À quoi bon la vie? À quoi bon se battre? À quoi bon travailler? À quoi bon aimer? Parce que finalement, ça ne vaut rien tout ça. Eh oui, ça ne vaut rien. Élie est un homme fatigué, je l'ai dit. C'est un homme qui passe une période où il est désabusé. Il y a un immense sentiment qui l'envahit à ce moment-là, comme ça peut nous toucher nous-mêmes, un sentiment de vanité. À quoi bon? Ou d'inutilité? À quoi ça sert tout cela? Vous savez, le stress, la déprime, crée quelquefois le désir de mourir. Oui. Qu'est-ce qu'il attendait, Élie? Il attendait que quelque part, eh bien, Dieu lui dise, lui parle, mais Dieu va lui parler. Hein. Mais il faut savoir attendre. Il faut savoir attendre. Il faut savoir, quelquefois, se mettre à l'écart, hein, parce qu'il était déjà à courir dans le désert, mais il y avait quand même les autres qui couraient derrière pour le tuer, naturellement. Et il ne savait pas où il en était rendu. Hein. Mais le désir de mourir, et puis, il y a le miracle. Écoutez ce qu'il est dit au verset 5. Il se coucha et s'endormit. Vous savez que les dépressifs, les déprimés, ceux qui vivent avec des angoisses, la nuit, c'est quelque chose de terrible. Hein. Ça, c'est sûr, hein, ça augmente, on est dans le noir. Mais les déprimés, j'ai souvent vu que quelquefois, pour oublier leur souffrance dans la journée, ils se mettent une couverture sur la tête, donc ils se font une nuit artificielle, et puis, ben voilà, ils sont là, ils sont dans cet état, c'est terrible, hein, terrible. Et lui, c'est tout simplement couché, parce qu'on n'a pas envie d'être debout quand on n'est pas bien à l'intérieur de nous-mêmes. On n'a pas envie d'être debout. On n'est plus comme le reste des hommes. On est tellement mal à l'intérieur. On est tellement décomposé à l'intérieur. On se demande comment on arrive à tenir encore sur nos jambes. Tout est coton, tout est vaporeux, tout est comme dans la ouate. C'est sentiment pour ceux qui sont passés par la dépression, vous savez ce que ça veut dire. Hein. Terrible. Hein. C'est vraiment terrible. Alors il s'est endormi, lui. Je ne sais pas s'il avait pris du Temesta ou autre chose. Hein. Mais toujours est-il qu'il s'est endormi. Mais c'est son réveil qui est intéressant. C'est son réveil. Le verset 7 nous en parle, et il est dit cette parole, il se coucha et s'endormit sous un genêt. Et puis voilà, que quand il s'est réveillé, il y avait la providence de Dieu qui lui avait déposé, tout simplement, eh bien, à son chevet, un gâteau cuit et une cruche d'eau. Et là, à ce moment-là, il a eu le courage de se substanter. Il nous a dit qu'il mangea et bu, puis se recoucha. Ah, il n'est pas encore prêt. Il n'est pas encore prêt, mais... Voilà, que celui qui est invisible, celui qui ne fait pas de bruit, celui qui nous prend avec amour et avec douceur lorsque nous sommes fragilisés. Il nous est dit que l'ange de l'Éternel vint une seconde fois, le toucha et lui dit, lève-toi et mange, car le chemin est trop long pour toi. C'est vrai qu'il est long ce chemin pour ceux qui sont dans l'angoisse, ceux qui sont dans l'anxiété, ceux qui vivent la déprime chronique. C'est long le chemin. Comment parcourir tout cela? Il est trop long pour toi. Alors à ce moment-là, il se leva, il mangea et but. Et avec la force que lui donna cette nourriture, écoutez, il marcha 40 jours et 40 nuits jusqu'à la montagne de Dieu à Horeb, et c'est là où Dieu lui a parlé. Dieu lui parle pour lui dire, Élie, non, ne t'en va pas comme ça. Je ne te laisserai pas partir comme ça. Parce qu'il y a quelque chose d'autre. Et parce qu'il ne doit pas partir comme ça, Dieu va lui parler. Mais cette fois, il va être revêtu de nouvelles forces. Ces forces qu'il l'avait abandonnées, qu'il l'avait trahies. Ces forces qu'il ne retrouvait plus parce qu'il était épuisé, épuisé par la vie, épuisé par le travail, épuisé par toutes sortes de choses comme notre société génère des millions et des millions de personnes. Et moi je crois que derrière cette pression, que derrière cette main puissante, il y a certainement des suicides de nature, eh bien, en raison peut-être de la vie économique ou de la vie tout simplement professionnelle. On entend parler dans les grandes sociétés que quelquefois il y a des séries de suicides parce que c'est trop. Et les gens ne supportent pas, ils n'ont pas la capacité. Mais vous savez, nous avons une nourriture, nous, qui peut nous donner les forces pour marcher 40 nuits, 40 jours. C'est la parole de Dieu, c'est le message de l'Évangile et ce que Jésus nous en dit. Parce que ce que nous disons aujourd'hui, moi, j'ai vécu ce genre de choses, pas comme Élie, hein, mais la dépression, je sais, je connais. Hein, et je crois que si aujourd'hui je vous parlais de ces choses, c'est parce que, et les ayant vécues, je sais que Dieu est capable de nous relever avec cette nourriture qu'est la parole de Dieu et les promesses que Dieu nous donne. Et on s'accroche à ce moment-là parce qu'on n'a plus rien d'autre. Et on peut marcher. Et là, on peut aller jusqu'à la montagne d'Horeb. C'est-à-dire, on peut se retrouver tout simplement devant Dieu, et c'est lui ensuite. Je ne peux pas vous raconter tout le reste, mais c'est quelque chose d'extraordinaire. Parce que là, il est rentré dans une nouvelle dimension, Élie. Eh oui, nous pouvons avoir des passages à vide. Tout simplement. Il y a un autre personnage dont je voudrais vous parler avant de terminer. Son nom, c'est Job. Alors là, je peux vous dire que ça tient quelque chose. Hein. Job. Job qui dit tout simplement, dans cette parole que nous ouvrons tout à nouveau, dans le chapitre 3, et au verset 20, il est dit cette parole, Et c'est comme une révolte. Eh oui, ça fait partie aussi du long chemin des dépressifs et de ceux qui veulent mourir. Et il s'en prend quelque part un petit peu à ce qui ne comprend pas. Il dira, mais pourquoi Dieu donne-t-il la lumière à celui qui souffre, aussi bon mourir? Et la vie à ceux qui ont l'amertume dans l'âme? Pourquoi vivre avec ce poison et cette toxicité à l'intérieur de nous-mêmes? Qui espère en vain la mort et qui la convoite plus qu'un trésor? Il y a des gens qui vivent ça, qui voudraient mourir pour être débarrassés. Qui serait transporté de joie et saisi d'allégresse s'il trouvait le tombeau? C'est des paroles terribles et redoutables. À l'homme qui ne sait où aller et que Dieu cerne de toutes parts. Excusez-moi, je change la nature des choses, que le diable cerne de toutes parts. Et lui, il l'interprétait comme quelque chose qui venait de Dieu. Mes soupirs sont ma nourriture, dit-il, et mes cris se répandent comme l'eau. Ce que je crains, c'est ce qui m'arrive. Ce que je retrouve, c'est ce qui m'atteint. C'est-à-dire, c'est la foi à l'envers. Et vous savez, quand on est déprimé, notre foi, vous l'avez remarqué, elle fonctionne à l'inverse. Eh oui, complètement dans l'autre sens. Et Job confessera, je n'ai ni tranquillité, ni paix, ni repos, et le trouble s'est emparé de moi. Je veux mourir, dit Job, et il le dit plusieurs fois. Mourir plutôt que vivre, on l'a déjà dit, hein. Quand on atteint le paroxysme de la souffrance, de la douleur, physique et morale dans la durée et dans l'intensité. Parce que si ça dure que quelques heures, ça va, on va supporter. Mais quand ça dure des jours et des jours et des nuits, et des semaines et des mois, alors à ce moment-là, qu'est-ce que l'on fait? Le seul désir que l'on peut avoir pour échapper finalement à cette torture, à ce tourment, c'est de dire, eh bien maintenant, la non-vie est préférable à la vie. Mais est-ce qu'il y a vraiment une non-vie? La question est là, elle se pose tout à nouveau. L'étrange espoir que peut avoir quelqu'un qui touche aux portes, finalement, de l'irréparable, eh bien, cet étrange espoir que la mort enfin mette un terme à la douleur et en finir une fois pour toutes, c'est ce que pensent bien souvent beaucoup de gens, beaucoup de suicidants. Ils se disent, terminé, c'est fini, je ne souffrirai plus. Ce sera terminé. Mais pourquoi mourrais-tu avant le temps? Parce que Dieu veut que nous mourions, comment dire, de notre belle mort. Est-ce que la mort est belle d'abord? Oui, la mort est pleine d'espérance pour celui qui croit en Dieu et qui a mis son espérance et son espoir en Dieu. Parce que Dieu est un Dieu qui sauve. Et il nous sauve non pas seulement pour les choses de cette terre, mais il nous sauve pour l'éternité dans son ciel, pour que nous connaissions plus jamais ce qui se passe sur la terre. Parce que de l'autre côté, il n'y aura plus rien de reconnaissable et rien de semblable à ce qui se passe sur la terre. Ce sera véritablement une autre destination, dans la perfection, dans la sainteté, dans la pureté et dans un amour que nous ne pouvons pas nous imaginer. L'amour que nous avons sur la terre n'est qu'un ersatz, une caricature en quelque sorte de ce que ce sera de l'autre côté. Qu'y a-t-il après tout cela? Après la vie? Grande question. Là, Job doit relever un défi invisible pour ne pas partir comme ça. Parce que lui, il ne savait pas, mais nous le savons, nous maintenant qui lisons son livre. On sait que ce n'était pas Dieu qui était à l'origine de ses envies de mourir, de ses souffrances, de ses peines, de ses chagrins, de ses cris, de ces choses épouvantables de perdre ses enfants, de perdre sa femme, d'avoir ses amis contre lui, et de devoir supporter cette maladie qui est encore une maladie actuelle, ce qu'on pouvait appeler un ulcère, mais qui peut-être aurait un autre nom aujourd'hui, tout simplement le cancer. Des pieds jusqu'à la tête. Souffrance indicible. Alors on peut comprendre. Mais il y avait quelque chose qu'il ne savait pas. C'est parce que il avait un défi, je l'ai dit. Un défi dans un autre monde. Et il était porté à la réflexion avant le geste fatal. Oh, il a eu des démarcheurs auprès de lui. Ses fâcheux amis. Mais il y a eu un jeune homme qui est venu à un moment donné. Il s'appelait Élu. Et lui, il lui a montré la voie qu'il fallait suivre. Connaître, pour découvrir ce qu'il fallait comprendre, et que finalement on n'est pas sauvé par notre propre justice. On est sauvé tout simplement par grâce. Et ça, que Dieu est avant tout un Dieu créateur et un Dieu rédempteur. Parce qu'à un moment donné, il est bien dit, je voudrais que ces paroles soient marquées comme avec un burin de fer sur du marbre. Je sais que mon rédempteur est vivant, que lorsque je n'aurai plus de peau, que j'aurai disparu, eh bien, il y a une autre vie, une autre nature. Et ça, c'était le défi à relever. Parce que c'est l'ennemi qui tue ce que Dieu a créé pour la vie. C'est l'ennemi qui crée la mort et l'envie de mort. Et puis, il y a, et brièvement, je ne vais pas m'attarder sur les textes, ni lire les comptes rendus, mais il y a un homme qui était roi d'Israël, il s'appelait Saül, qui se tue au moment de la défaite de Gilboa. Il va mourir avec ses deux ou trois fils. Il va être vaincu par les ennemis d'Israël. Mais lui, le problème, contrairement aux quatre autres dont nous venons de parler, lui, il se tue parce qu'il est orgueilleux. Et il ne veut rien entendre. Il a désobéi toute sa vie. Il est en révolte. Alors il va se passer l'épée comme le geôlier a tenté de le faire. Mais lui, il va le faire, finalement, en pensant qu'il ne pouvait plus y avoir de rédemption pour lui. Parce qu'il était tellement obstiné, tellement, finalement, et bien là, dans une vie de désobéissance, il s'est donné la mort. Et puis, est-ce que je pourrais terminer et conclure sans vous parler de Judas ? Judas, vous savez, celui qui a vécu avec Jésus dans l'histoire nous est rapporté d'une manière très sensible dans le chapitre 27 et verset 4 de Marc. Oui, parce que Judas, contrairement à Pierre qui a cru et qui s'est repenti, Judas est resté incrédule d'un pardon et d'un secours possible. Il n'y a pas cru. Oui, le traître. Nous voyons que, en ce qui le concerne, il va aussi mourir de ce qu'il y a de plus terrible. Il va mourir comme ça, en quelque sorte. Et le texte nous dit d'une manière très lapidaire, il alla se pendre. Vous voyez la différence entre la foi et puis l'incrédulité, la révolte, d'une manière ou d'une autre. Et puis enfin Jésus. Vous allez me dire, mais Jésus a voulu se suicider, non ? Non, écoutez, Jésus. Parce que, quand vous regardez bien dans le texte, les circonstances de sa mort à Jésus font penser à des intentions suicidaires. Parce qu'il a accepté la mort. Ah, c'est pas lui qui s'est donné la mort. On lui a donné la mort parce que c'était un meurtre et un crime, un déni de justice. Mais, quand on voit qu'à chaque fois qu'il y a un recul pour aller devant la souffrance et devant le sacrifice de Golgotha ou de Gethsémané, à chaque fois, il y a ce recul humain qui est tout à fait compréhensible. Et à chaque fois, il va dire, « Eh bien, Seigneur, je vais aller jusqu'au bout. » C'est un suicide, en quelque sorte. Oui, mais la différence, c'est que Jésus ne vivait pas pour lui-même. Il vivait pour nous, parce qu'il est mort, non pour échapper à une faillite d'une vie rejetée, mais il est mort pour le triomphe du bien sur le mal. Il est mort pour que la vie prenne l'ascendance sur la mort. Pour que véritablement, eh bien, il est mort pour que le pardon divin domine le désespoir. Le pardon divin domine le désespoir. C'est une lutte contre la mort elle-même. Et il dira ces paroles à la croix. Pour tous ceux qui ont envie de mourir, tous ceux qui sont peut-être mal pris, ce sont des souffrants. Et nous devons avoir compassion de ces souffrants. Parce que nous pouvons y passer à un moment ou à un autre. Même si nous sommes des Élie, des Jérémie et tout ce que vous voudrez, les croyants n'ont pas été mis à part dans tout cela. Et puis, ces dizaines et des centaines et des milliers qui meurent autour de nous, parce que Jésus a dit ces paroles, « Père, pardonne-leur, parce qu'ils ne savent pas ce qu'ils font. » Et moi, j'ajouterais, « Parce qu'ils ne savent pas où ils vont. » Eh oui, eh oui. Car l'épreuve du courage, nous dit un proverbe, n'est pas de mourir, mais la grande épreuve du courage, c'est de vivre. Ça, c'est ce que la Bible dit. Ne t'en va pas comme ça. Non. Si nous avons les uns et les autres quelquefois passé par des moments difficiles, si nous passons par des moments difficiles où il y a des pensées qui sont de cette nature, si nous passerons, et nous passerons peut-être encore par des moments d'épreuve dans ce domaine, souvenez-vous, ne t'en va pas comme ça. Il y a quelque chose, il y a un espoir, il y a une espérance, il y a quelque chose de formidable que Dieu nous prépare. Car Dieu est venu sauver les désespérés. Je suis venu pour délivrer ceux qui ont le cœur brisé, pour guérir les cœurs brisés, ceux qui sont dans l'obscurité, ceux qui sont opprimés d'une façon ou d'une autre, ceux qui sont aveugles. Eh oui. Vous savez, tous ces hommes dont nous avons cité, les quatre premiers naturellement, eh bien, ont surmonté leur désespoir passager. Le geôlier a été sauvé, lui et sa famille. d'une main meurtrière de l'adversaire, il en est sorti un disciple pour le royaume de Dieu, au service de Jésus-Christ. Et voilà. Jérémie, lui, il a vécu pour continuer à écrire. Et il a écrit un deuxième livre, ce qu'on appelle les Lamentations de Jérémie. C'est pour dire que ses pleurs et ses larmes n'étaient pas taries. Hein. Mais quand nous lisons ce livre de Jérémie, à travers les pressions, à travers l'oppression qu'il a connue, il a écrit avec ses larmes et avec ses chagrins. Et aujourd'hui, ce qu'il nous a laissé, les promesses de Dieu pour tous ceux qui sont dans cette nature de souffrance, eh bien, ils peuvent avoir l'espérance que c'est un Dieu qui entend leurs prières et qui les délivre. Tu m'invoqueras, je te répondrai. Je crois que ça fait partie du livre de Jérémie. Et puis Élie a reçu de nouvelles missions au pluriel. Parce qu'il croyait que c'était fini. Et Dieu lui dit, mais attends, t'as même pas commencé. Ça commence pour toi. Tu vas faire ceci, tu vas faire cela, etc., etc. Et Élie est devenu un homme extraordinaire sur le plan des miracles. Et Job, écoutez, Job, il a été guéri et Dieu l'a enrichi. Ça serait quand même dommage, finalement, d'aller jusqu'au bout alors que Dieu a un projet, que Dieu a une espérance pour chacun d'entre nous. Et vous savez, les amis qui viennent dans nos réunions, quelquefois qui viennent avec la mort dans l'âme, c'est comme ça qu'on peut dire, hein, avec cette envie de mourir, écoutez, ne t'en va pas comme ça. Parce qu'il y a quelque chose de formidable pour toi. Il y a une nouvelle vie. Il y a une espérance. Dieu nous donne son pardon et il va nous environner de sa grâce. On va prier quelques instants si vous voulez. Ne t'en va pas comme ça. Seigneur, nous te bénissons pour ta parole ce soir. Nous te bénissons, Seigneur, parce que nous croyons que ce sont des mots, ce sont des phrases, ce sont des pensées, Seigneur, qui sont tout à fait d'actualité dans un monde où il y a des hommes et des femmes, des jeunes gens, des jeunes filles, voire même des enfants qui ont été labourés par la vie, peut-être par le désamour, peut-être par l'abandon, par le rejet, peut-être par le divorce, à travers, Seigneur, de grandes déceptions, de grandes douleurs physiques, de grands ravages au niveau de leur âme et de leur cœur, Seigneur, et qui a voulu mettre un terme à leur vie. Mourir plutôt que vivre, eh bien nous voulons dire tout simplement vivre plutôt que mourir. Et nous voulons te rendre grâce et te remercier. Visite mes amis qui entendent cette parole et qu'elle puisse leur donner, Seigneur, de regarder à toi. Et qu'en effet, Seigneur, notre Dieu nous donne une vie pleine de lumière, pleine d'espérance, pleine de joie. Et nous voulons te rendre grâce et te remercier. Oui, Seigneur, tu sauves le malheureux de sa détresse. Oui, Seigneur, dans le nom de Jésus. Jésus est venu pour les désespérés de l'existence. Qu'il en soit ainsi, Seigneur. Et moi, je veux simplement te dire, eh bien, Seigneur, je crois dans tes paroles. Je crois dans ta parole. Et merci, mon Sauveur. Merci, Jésus. Merci, mon Dieu. Amen.
Pour écouter d'autres messages audio ou vidéo, retrouvez-nous sur www.add-saint-nazaire.fr.